Bonjour, nous allons donc ouvrir cette table ronde intitulée « L'espace fait-il encore rêver ? Science-fiction et aventure ». Nous allons sans doute y parler de space opéra. Nous avons autour de cette table des experts qui auront beaucoup de choses à nous dire sur la question, puisque Pierre Bordage, ici à gauche, à ma gauche, à votre droite, est l'auteur d'une trentaine de romans qui ne relèvent pas tous du space opéra, mais certains d'entre eux, oui. Pierre Bordage a exploré des registres divers, à peu près tous d'ailleurs, le fantasy, la fantastique, des thèmes religieux, en les abordant sous l'angle des mythes ou d'autres. On citera juste l'ange mineur, les guerriers du silence, la fraternité du Panka, qui lui est un vrai space opéra à l'échelle de la galaxie. On sent que cette dimension, cet espace lui est nécessaire pour sa vision qui a beaucoup de souffle et d'ampleur. C'est en tout cas un commentaire que l'on fait fréquemment à propos de son œuvre. Ensuite, juste à côté de moi, Alastair Reynolds, que l'on considère comme un des fondateurs du New Space Opera, avec là encore beaucoup de souffle, mais une manière peut-être particulière d'aborder le space opéra qui tient à son passé récent d'astrophysicien et donc qui lui permet d'aborder la thématique d'une aventure galactique et de multiples planètes à explorer avec de vraies connaissances dans l'exploration de l'espace et ses caractéristiques. P.J. Hero, grand auteur de space opéra lui aussi, qui est un des piliers, a été un des grands piliers de la collection Fleuve Noir, qui continue, qui poursuit son œuvre, mais avec une très nette prédilection pour le space opéra toujours. Il nous dira, mais tout ce que j'ai lu personnellement de P.J. Hero, c'est du space opéra, c'est vraiment... la thématique et l'environnement qui semblent lui convenir. Et ses romans les plus récents se trouvent actuellement dans la collection Rivière Blanche. Et on y trouve des conflits galactiques et de grandes épopées. Et ensuite, Daniel Martinigol. Daniel Martinigol qui écrit majoritairement pour la jeunesse ou le public adolescent, disons... Ou les jeunes adultes, ou nous tous, nous sommes tous de jeunes adultes, des récits d'aventure avec une vision, elle nous dira si c'est toujours le cas, mais une vision où l'espace est un cadre, là encore, qui est important pour déployer la présence de nombreuses civilisations humaines. Peut-être que les extraterrestres ne sont pas le prétexte dont elle a le plus besoin, mais la diversité des sociétés humaines. Je ne sais pas si l'hypothèse est valide, elle nous dira. Et enfin, Vincent Jugnot, auteur récent, qui a commencé par écrire quelques nouvelles dans le domaine du fantastique, je crois, mais qui s'est hardiment lancé dès son premier roman, qui vient d'être publié là encore chez Rivière Blanche, dans un space opéra, très clairement, mais qui est aussi, on le sait déjà, le premier volume d'une trilogie, donc voilà, un univers qu'il a l'intention de déployer. Nous allons donc essayer de voir pourquoi le space opéra les inspire, et je crois que la première question que nous pourrions peut-être leur poser, c'est est-ce que vous, personnellement, l'espace vous fait rêver ? Pourquoi ? Je vais peut-être commencer par Pierre Bordage qui l'utilise occasionnellement pour lui demander quel plaisir il trouve dans la lecture ou en tant qu'auteur.
Eh bien, très grand plaisir. À la fois en tant que lecteur, à la fois en tant qu'auteur. Mes premiers coups de cœur en science-fiction, ça a été d'espèce opéra. Et naturellement, quand j'ai écrit, je me suis mis à écrire. Le premier bouquin que j'ai écrit, la première série que j'ai écrite, donc c'est Les Guerriers du Silence, était du space opéra et je ne savais pas que je faisais du space opéra. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, les aventures dans les étoiles et sur plein de planètes différentes. Mais c'était spontanément que, comme j'avais lu Dune, comme j'avais lu Asimov, etc., je me suis lancé tout de suite dans ces espèces d'aventures galactiques parce que ça me plaisait énormément. Parce que c'est effectivement un endroit où l'on peut encore rêver. C'est un formidable terrain de jeu pour l'aventure. Même si je n'ai pas du tout la formation comme Alistair Reynolds, qui est un astrophysicien, moi je suis un pur littéraire, donc j'avais quelques notions à acquérir pour rendre à peu près crédibles les choses, et j'ai pris des leçons par mon éditeur de l'époque, Pierre Michaud, qui m'a dit « on ne fait pas tout, n'importe quoi dans l'espace ». Il y a quelques règles quand même, voilà, donc il m'a expliqué les règles pour rendre les choses crédibles, mais partant de là, c'est vraiment un formidable outil d'exploration, le refuge, à mon avis, du merveilleux moderne, l'endroit où on peut sidérer encore dans l'espace sidéral, ça tombe assez bien. La possibilité de rencontrer d'autres civilisations, d'autres formes de vie, d'autres conditions de vie, de mettre les héros dans des situations très très difficiles, très héroïques finalement, comme un petit peu le voyage d'Ulysse revenant de la guerre de Troie. Parce que je pense que c'est à peu près le même registre, sauf que le terrain de jeu s'est déplacé, on n'est plus à l'éternel, on est dans l'espace. Et c'est là où il y a encore le champ de tous les possibles. Donc oui, pour moi, l'espèce opéra, c'est vraiment le merveilleux terrain pour continuer de rêver.
Et demandons à Pesciero, qui lui est résolument heureux, un auteur qui s'épanouit dans cet environnement, s'il peut nous expliquer pourquoi ça marche si bien.
Bonjour. Moi, c'est une réaction. Je suis venu au Space Opera par réaction. J'ai commencé par écrire des romans d'espionnage. Je me suis dit, pourquoi je n'ai pas. Au bout du troisième, j'en avais marre du cocktail actuel. Et je recevais à l'époque du fleuve noir des bouquins qui sortaient chaque mois. Donc, je recevais des bouquins de science-fiction que j'ai lu par automatisme. Ça m'a plu. Surtout, je me suis rendu compte que c'était la liberté totale. On fait dans l'espace, on peut faire un bouquin romantique de l'eau de rose, on peut faire un bouquin psychologique, on peut faire un bouquin sociologique, on peut faire un bouquin d'aventure, on peut tout faire, tout. Donc c'est pour un écrivain, c'est le terrain de jeu magnifique, la liberté. Et donc j'ai pu l'objet quand j'ai pu j'y suis resté. Moi je ne peux pas dire que j'ai pas de passé technique. Mais j'ai un passé de pilote, c'est ce qui m'a plu au départ. J'ai imaginé que ce que je savais du pilotage des avions ou d'autres engins de ce genre était applicable dans l'espace. Je me suis amusé à imaginer ce que moi, en pilote, j'y trouverais. Et je me suis mis à faire des cavaliers de vol. C'est bien que bon, je suis resté. J'ai imaginé des histoires qui me permettaient de voler. En fait, c'est un peu ça. Je crois que j'ai imaginé un monde où je pouvais voler.
Merci. On va demander à Daniel peut-être si c'est l'envie de voler qui lui donne envie de naviguer entre les mondes. Daniel Martin-Nigol, vous l'avez sans doute lu, elle est très préoccupée par des thématiques écologiques en particulier, mais par tout ce qui peut se passer dans des interactions humaines. Alors, pourquoi l'espace ?
J'ai découvert la science-fiction en tombant un jour tout à fait par hasard sur les livres de mon grand-père, qui étaient Les Fleuves Noirs Anticipation. Et j'ai adoré lire ce genre de livres. Je les lisais en cachette, parce que c'était des livres pour adultes, et j'avais à peu près 11 ans à l'époque où j'ai découvert cette bibliothèque. Bon, il n'y avait absolument rien qui était choquant dedans, mais je savais qu'ils étaient considérés comme adultes, puisque c'était les livres de mon grand-père. Donc je les lisais en cachette, et un jour mon grand-père m'a surpris, alors que j'étais en train d'en lire un, et il m'a dit « Qu'est-ce que tu lis là? C'est pas pour toi, c'est de la science-fiction, c'est pas pour les
jeunes, pas pour les filles,
et surtout c'est pas pour les filles. » Donc qu'il y ait des vêtements ou des métiers qui ne soient pas pour les filles, dans ma génération on avait presque admis ça, mais alors qu'il y ait des livres qui ne soient pas pour les filles, ça m'a énormément surprise. Et c'était une porte ouverte extraordinaire. J'adorais regarder les ciels étoilés. J'adore encore regarder le ciel étoilé. Hubert Reeves dit que la meilleure façon d'observer les étoiles, c'est de les regarder à l'œil nu. Et je pense que c'est vraiment fondamental d'apprendre à nos enfants à lever le nez et à regarder un petit peu en direction des étoiles. Et c'est un embrayeur d'imaginaire formidable. Et j'ai adoré ça quand j'étais jeune, et quand je me suis mise à écrire, tout naturellement, j'ai écrit ce que j'aimais lire aussi quand j'avais 14-15 ans. Quoi. J'écris des livres peut-être avec cette différence que j'avais deux types de lectures dans mon adolescence, les livres de science-fiction de mon grand-père, les romans d'amour de ma mère et de mes tantes. Donc je lisais en parallèle Barjavel et La Marquise des Anges. Et ça me choquait beaucoup, ça me manquait énormément qu'il n'y ait pas de belles histoires d'amour dans les romans de science-fiction et que dans les romans d'amour, on n'ait jamais de voyage dans l'espace. Et donc, le jour où j'ai décidé d'écrire un livre pour mes enfants et pour mes élèves, puisque j'étais déjà prof quand j'ai écrit mon premier roman, j'ai décidé de mêler ces deux choses qui me passionnaient dans mon adolescence, c'est-à-dire le space opéra et le roman d'amour. Il y a toujours une histoire d'amour dans un roman d'amour.
Eh bien, demandons à Vincent Jugnot maintenant, qui est médecin dans sa vraie vie, pourquoi l'espace ? Est-ce que c'est pour pouvoir imaginer d'autres formes de vie, ou ça n'a rien à voir ? C'est pour contempler les étoiles, ou c'est pour avoir de la place et faire tout ce qu'on veut ?
Bonjour. C'est, je pense que je partage ce que tout le monde partage, c'est-à-dire la fascination pour les étoiles. Les étoiles ont fasciné l'homme depuis toujours. On a placé les divinités, on a placé Dieu dans les étoiles, donc c'est un aspect très important de notre vie. L'univers est infini, donc c'est vrai que c'est vertigineux, c'est déjà une dimension qui nous échappe hein, sur le plan matériel et dans notre société qui est de plus en plus normée, où tout est, on est tous connectés, où il n'y a plus de territoire imaginaire, tout est connu, tout a été recensé. L'espace offre une dimension encore pour développer l'imaginaire qui est impressionnant. Ouais. Voilà, c'est ce qui m'attire le plus, en tout cas dans l'espace. Alors le space opéra, on m'a demandé de faire une petite introduction récemment. Enfin, j'ai regardé, c'est compliqué, la définition du space opéra. Le space opéra, c'est en fait, ce sont des récits d'aventure haut en couleur dans lesquels interviennent au moins un vaisseau interstellaire. Voilà, c'est la définition du space opéra. Et donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, je ne le savais pas, mais effectivement, j'ai écrit un space opéra parce que ce sont des récits d'aventure où il y a effectivement au moins un vaisseau interstellaire et il faut que ce vaisseau interstellaire soit toujours forcément plus extraordinaire que qui ont été inventés avant.
Est-ce qu'il est obligatoire qu'il décolle ?
Pas forcément, on peut avoir des vaisseaux interstellaires
posés sur des planètes. Bon, demandons à Alastair Reynolds une question un peu particulière pour lui, parce que c'est quand même acceptable le scientifique qui connaît quelque chose dans le domaine dont nous parlons, le cycle des inhibiteurs et tout. Toute son œuvre est très inspirée par l'espace. Est-ce que ça n'est pas gênant d'y connaître quelque chose ? Est-ce qu'on n'est pas extrêmement conscient du fait que, par exemple, l'espace est peut-être très inhospitalier, qu'on aura du mal à terraformer les planètes ? Est-ce qu'on peut jouer avec le même plaisir ? Bon, quand on lit son œuvre, on sait que oui, mais comment il fait pour jouer avec le même plaisir que ceux qui n'y connaissent rien, comme nous autres profanes.
When I started writing science fiction, I also never heard of space opera or any of these terms.
Quand j'ai commencé à écrire moi-même de la science-fiction, j'avais pas non plus entendu parler de space opera. J'y connaissais rien non plus.
It seemed to me that the natural place where I wanted to tell stories was out in space.
Et ça m'a semblé naturel que les endroits où je voulais placer mes aventures se passent dans l'espace.
And I think almost everything I've written since then has been had a almost all everything has had some sort of space setting.
Il me semble que tout ce que j'ai écrit depuis que j'ai commencé à écrire a toujours eu un rapport avec l'espace ou un décor dans l'espace.
But I don't really worry too much about the fact that I'm a scientist or was a scientist.
Mais je m'occupe pas trop du fait que je sois un scientifique ou que j'ai été un scientifique.
I think it's much less relevant than people think in terms of the type of science fiction I write.
Ça n'a pas tellement de rapport en fait, beaucoup moins que ce que les gens pensent habituellement.
I have written stuff where the science is sort of quite central to the storyline, but it's not everything I write.
J'ai écrit des histoires où la science était au centre de l'histoire, mais c'est pas tout ce que j'écris.
And with the Revelation Space books, which are quite a dark sort of space opera.
Avec la série des révélations qui est assez un space opéra sombre.
It wasn't so much about making it realistic and technologically plausible.
Le truc c'était pas de le faire spécialement technologiquement plausible.
More about the mood and the atmosphere that I wanted to get across.
Bah, c'était plus une histoire de d'ambiance et d'atmosphère qui voulait transmettre.
And I at the time I was reading a lot of noir, you know, sort of police sort of stories with a very sort of smoky, gloomy, black and white feel to them.
À l'époque, je lisais beaucoup de romans noirs avec une ambiance noire et blanc très très glauque.
So I thought, you know, it would be fun to do a sort of space opera. Except I wasn't thinking of space opera. I was just thinking of science fiction in the galaxy, something like that, with the same sort of melancholy sort of atmosphere.
J'ai trouvé amusant de créer une histoire de space opera qui est la même ambiance. Qui avait dans ses romans noirs un peu plus.
But it is, you can easily have fun. I mean, even if you say my spaceships cannot go faster than the speed of light, for instance.
Vous pouvez toujours vous marrer même avec des vaisseaux spatiaux si vous vous dites que la limite c'est ces vaisseaux spatiaux ils vont pas plus vite que la vitesse de la lumière.
It doesn't stop you having fun as a writer. I mean, I have a tremendous amount of fun and enjoyment with thinking.
Voilà, ça ne vous empêche pas de vous éclater, hein, et je m'éclate beaucoup en écrivant ce genre de choses, peu importe les limites.
So there are certain types of story that you can't tell if you try and keep the science accurate.
Voilà, il y a certains types d'histoires que vous ne pouvez pas raconter si vous essayez d'être absolument précis au niveau de la scientifique.
But then other types of story become possible.
Et en même temps, d'autres types d'histoires deviennent possibles.
But I just like writing lots of different types of things, and some of my other novels are very different in tone, I think, and some of them are still a little bit space opera, but it's a different approach each time, I think.
Mais j'aime beaucoup écrire de différentes choses. Il y en a qui ont d'autres approches du space opera, mais de toute façon, c'est la variété qui m'intéresse.
Quand on pense à la science-fiction, en particulier quand on en lit peu, il est probable que le space opera, c'est ce à quoi on pense en premier. C'est l'image la plus classique qu'on a de la science-fiction, des vaisseaux spatiaux, des extraterrestres. Ça correspond aussi à l'âge d'or de la science-fiction, à une période où on rêvait de conquête spatiale, on commençait à envoyer des hommes sur la Lune, et on est dans une période différente, la conquête spatiale est un peu en berne. On a des doutes sur un avenir de l'humanité dans lequel elle essaimerait sur de nombreuses planètes. Est-ce que de votre point de vue, c'est important ou pas que... Est-ce qu'on accroche mieux l'adhésion des lecteurs en essayant de construire des avenirs crédibles ou on s'en moque complètement ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit plausible ou pas. Comment ça marche? Qui a envie de répondre? Pierre, peut-être?
Oui... quasiment rien n'est plausible dans le space opera. comme rien n'est plausible et que voilà, on invente. Effectivement, ce qui est intéressant, enfin, je pense que pour beaucoup de gens, le space opera, c'est des espèces de combats d'aliens contre des robots dans l'espace avec des machins laser, ce qui est très limitatif comme définition du space opera. Et quand les gens me disent, voilà, c'est une histoire, c'est quoi votre histoire? Ça se passe dans l'espace. Ah, non, je dis pas ce truc-là, ça me fait un peu peur. Donc ce sont des histoires, avant tout, avec des personnages. C'est ça le principal, c'est-à-dire que ce sont des êtres humains qui sont dans l'espace. Que il n'y aura aucun intérêt pour personne de raconter la vie d'un robot ou la vie d'un extraterrestre. Personne ne pourrait comprendre sa logique, et donc on est bien des êtres humains qui s'adressent à des êtres humains, mais qui utilisent un terrain de jeu qui est beaucoup plus large, parce que justement, il y a beaucoup de plaisir à aller dans ce terrain de jeu, à voler, comme disait M. Hérault, à découvrir des mondes, à voir cette tapisserie cosmique qu'on voit de la Terre, et à se prendre des dents. Là, il y a un vrai plaisir. Donc, ce qui est important, je pense, et contrairement à ce que pourraient croire aussi certains lecteurs, c'est que le space opéra, c'est pas n'importe quoi non plus. Il y a plein de dangers qui guettent un auteur, je pense, dans le space opéra. Il y a le fait de ne pas être cohérent. Or, une histoire engendre sa propre cohérence. Je ne parle même pas de cohérence scientifique, mais de l'histoire qu'on est en train de monter. Quelle est sa propre cohérence? Il y a un danger qui guette l'auteur, c'est le vocabulaire. Parce qu'on pourrait avoir aussi la tentation de jouer avec du vocabulaire à l'infini et de perdre complètement son lecteur. Donc en fait, l'imaginaire, plus il est proche, t'es loin, j'ai l'impression, plus il demande de la rigueur de la part de l'auteur. Et donc pour bâtir cette espèce d'architecture complètement imaginaire, il faut cette rigueur pour que n'importe quel, et là j'insiste beaucoup là-dessus, je voudrais que n'importe quel lecteur puisse entrer dans la space opéra. Ça c'est mon propos à moi quand je fais un space opéra, que j'avais un peu partiellement raté dans la guerre du silence parce que je donnais une masse d'informations sur le premier tome qui noyait un peu le lecteur en disant mais je peux pas, là, j'en prends trop dans la tête d'un seul coup. Donc maintenant quand je fais un space opéra, j'en ai fait 3 ou 4 en tout, c'est, j'essaie de tendre des passerelles, dire n'importe qui peut venir dans un space opéra parce que c'est formidable tout simplement, vous allez vous éclater une fois que vous allez avoir accepté l'idée de vous décoller du sol et d'aller dans l'espace, de voler, vous allez vous éclater parce que là c'est une aventure à la dimension cosmique. Et donc là on retrouve, je pense à mes marottes, on retrouve les dimensions mythologiques appliquées dans l'espace, c'est-à-dire qu'on a déplacé le terrain de jeu. Et on retrouve finalement, plus on va loin dans l'espace, qu'on retrouve l'éternel humain. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de développer l'éternel humain à travers l'immensité. Et je pense que plus on est immense, plus l'éternel humain apparaît. C'est ça qui m'intéresse dans ce space opéra.
Monsieur Giraud, est-ce que vous avez l'impression de construire un univers interstellaire, une galaxie? Est-ce que tous ces récits que vous avez situés en différents lieux sont cohérents, forment un univers illimité potentiellement que vous développez à chaque fois?
Ce que je remarque, c'est que on tourne autour du mot. On tourne depuis tout à l'heure autour du mot. En fait, l'espace, c'est le rêve. On parle tous du rêve et on fait rêver les gens. On est dit qu'on le fait rêver. Et on a des moyens, mais chacun a son rêve. Chacun a ses rêves, chacun a son vocabulaire, et dans les bouquins qu'on écrit, dans les romans qu'on écrit, on utilise un vocabulaire de rêve. Donc les mots, il faut absolument y veiller, doivent être les mots de chacun d'entre nous, qu'on applique à une dimension particulière. Moi je prétends que les Grecs anciens, je prétends qu'il n'y a pas de différence entre un grec ancien, un terrien d'aujourd'hui et un terrien dans 2000 ans. Je pense que ce qui intéressera, c'est l'amour, le fric, la fidélité, les grands problèmes de conscience, mais qui sera partagé entre sa conscience et son quotidien. Je ne suis pas du tout persuadé que, même s'il a une tête de voix plus épaisse que la nôtre, il sortira plus haut. Peut-être, bien sûr, mais pas plus chacun d'entre nous. Et que, en tout cas, son cœur fonctionnera pas. En tout cas, pas de niveau d'un. Je suis persuadé que ce sont les mêmes hommes. Mais, en revanche, quand nous, aujourd'hui, on parle d'eux, il faut bien qu'on parle d'eux pour faire rêver. Il faut bien qu'on parle d'eux en faisant d'eux des personnages différents. Donc, on va les faire agir différemment. Et s'il y a un Grec ancien, on l'avait dit, qui sera le matin avec un ardoir, il aurait été un petit peu ennuyé. Et salut, ça va pas. Si on l'avait raconté ça à un grec ancien, il n'aurait rien compris. Donc, si nous, on veut parler du quotidien, de notre futur, on ne peut pas parler d'un souvent qui n'a encore pas été inventé. Il faut qu'on parle de quelque chose qui nous paraît possible d'avoir été inventé. Et ça, c'est notre imaginaire. L'imaginaire du lecteur, c'est primordial. Le rêve, dans l'écriture, et le roman est un style à part, pour moi, les écrivains les plus purs sont les écrivains de romans, c'est-à-dire de l'imaginaire. Il y a des bibliographes, des essayistes, qui sont des recettes, qui pensent bien, mais le romancier, un roman, c'est un personnage qui s'adresse à tout le monde, sans exception. Et c'est le tout le monde sans exception, ah, c'est nous quand nous rêvons. Je respecte rien tant que le rêve.
Je pense que Daniel va être d'accord avec ça. Les émotions, les sentiments, est-ce qu'ils se déploient mieux dans la confédération des mondes humains que sur notre petite planète?
En fait, quand Pierre disait qu'on avait tendance un peu à compliquer les choses dans un premier space opéra, j'ai commis pratiquement la même erreur. Mais j'ai eu vite fait d'être remise devant la réalité des choses par mon public. Parce que moi, j'écris pour des jeunes qui n'ont peut-être jamais encore entendu parler des livres de science-fiction. Pour beaucoup, ils découvrent le genre en lisant mes romans. Ça commence dès le CM2, 6e, 5e. Donc là, il y a une obligation quand même de simplification, de clarté. Et puis bon, il y a aussi l'obligation d'avoir quelque chose qui me pousse à continuer dans la lecture de ce roman. Et ça ne peut pas être autre chose, effectivement, que la vie, le rêve, les sentiments, toutes ces choses-là. Parce qu'on n'entraîne pas un enfant ou un adolescent dans une aventure qui serait trop rigoureuse, trop anxiogène, etc. Il faut être... Il ne faut pas essayer de les illusionner en leur faisant croire que tout est beau et tout est gentil, mais il faut être simple et clair et les entraîner dans l'aventure pour progressivement les amener aussi à se passionner pour ce genre. Enfin, moi, j'espère qu'après avoir lu un de mes livres, ils iront vers d'autres livres de science-fiction. Enfin, c'est mon but, c'est d'essayer de les intéresser à ce genre, parce que moi ça m'a tellement ouvert l'esprit, ça m'a tellement plu, j'ai tellement adoré ça et j'adore encore et je ne lis encore avec un grand plaisir que les Espresso, je le dis franchement. Les autres, je les lis souvent par curiosité, j'y trouve de l'intérêt, mais si je veux vraiment me déboulonner la tête d'un souci quelconque, je prends un bouquin que Space Opera. C'est ça qui me passionne, c'est ça qui me fait rêver le plus, je m'en vais, je m'embarque. Et moi, j'ai créé beaucoup de planètes qui sont différentes. Moi, j'ai des planètes monotaches. Dans la mesure où je m'adresse à un jeune lectorat, je ne peux pas compliquer trop les choses. Donc, j'ai une planète poubelle, j'ai une planète entièrement végétale, j'ai une planète maritime, enfin bon. Ouais. Et sur ces planètes, les aventures que vivent mes personnages les confrontent à certaines réalités des choses qui sont à 90% des problématiques écologiques. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise quand j'étais jeune en lisant du space opéra, c'était de me ramener à la Terre. Le space opéra me ramenait à ma propre planète en permanence. Et j'ai découvert très jeune que finalement j'étais une petite boule bien fragile. Hein, et j'essaie d'apporter la même prise de conscience à mes jeunes lecteurs. Et finalement... si le space opéra peut les ramener à des problématiques bien de chez nous, et en particulier les problématiques écologiques, ben ça serait bien. Voilà.
Alors, on vient de parler de la nécessité qu'avait l'auteur de rester simple, clair, pour ne pas faire peur à son public. Je serais très intéressée de savoir ce que va nous dire Vincent Jouniau sur la question. Puisqu'il me semble que sa démarche n'est pas tout à fait celle-là, où son roman est rempli d'inventions et complètement touffu, explosif et jubilatoire à chaque paragraphe, mais pas d'une manière extrêmement linéaire, je crois. Alors, est-ce que c'est une évolution que vous commencez à imaginer, la simplification, ou vous n'avez pas envie de travailler comme ça? Qu'est-ce que ça permet de faire finalement ce cadre illimité?
Bien, c'est peut-être lié à ma formation, on va dire, scientifique, médicale. C'est vrai que l'évolution de l'homme va vers la, complexification, vers la différenciation. Et donc, quand on écrit un space opéra, on part du postulat que l'humanité a essaimé. Donc, cette ouverture sur les étoiles va offrir une palette à l'homme de se développer, de se différencier encore plus qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est un point de vue personnel. Pour moi, le space opéra, en fait, quand on commence à l'écrire, on est obligé à bâtir, à se questionner sur tous les aspects politiques qui peuvent se développer sur tel ou tel panel, les réseaux sociaux, les questions philosophiques qui vont se différencier, qui peuvent, les questions religieuses, la spiritualité, tout ça forcément dans un milieu où la technologie a permis l'accès aux étoiles. Donc on peut, c'est difficile, enfin, si on veut être, à mon avis, avoir un regard objectif sur un space opéra. J'ai l'impression que le space opéra se développe dans la différenciation, dans la complexification. Et ce qui est intéressant, c'est d'analyser un peu les interactions de l'homme confronté à ce space opéra, avec, alors éventuellement avec l'homme à travers les différentes sociétés, ou à travers des artefacts, ou à travers la technologie, ou à travers des puissances inconnues, peu importe. Mais il me paraît intéressant cet aspect de complexification de l'histoire de l'homme. Et c'est toujours intéressant d'imaginer un petit héros plongé dans cet infini cosmique où l'homme a pu se différencier dans différentes directions. C'est ce que je lui souhaite. Hein. Nous sommes en cours d'évolution, donc voilà, il va y avoir. Donc moi, j'ai toujours été fasciné par le livre de Olaf Stapledon, Les Derniers et les Premiers, où il y a le premier homme, le deuxième homme, le troisième homme, le quatrième homme, le cinquième homme. Donc voilà, on est en cours d'évolution, on n'arrête pas d'évoluer, on a une certaine étape, on n'est pas arrivé. C'est sûr que si on part du postulat de l'ouverture sur les étoiles, cette évolution va certainement exploser de manière exponentielle. C'est mon point de vue.
Alors, Alastair Reynolds a exploré la question sous l'angle difficile qui consiste à imaginer la rencontre avec d'autres espèces, avec des extraterrestres, des rencontres qui ne sont pas toujours très pacifiques. Mais c'est très très difficile d'imaginer ce que pourraient être des créatures différentes, issues d'une autre histoire et ayant quand même une forme d'intelligence. Comment on fait pour imaginer des extraterrestres crédibles et les interactions qu'on pourrait avoir avec eux? Est-ce qu'on essaie d'imaginer toute leur histoire ou on les prend tels qu'ils seraient au moment où on les croise? Comment on travaille en arrière-plan?
To begin with, I try and untangle myself from microphones. For me, one of the themes that I find most interesting in science fiction is the idea of the alien.
Pour moi, une des choses les plus que je trouve le plus intéressant dans la science-fiction, c'est l'alien.
But I particularly like it when the alien is kept quite mysterious and strange.
Mais je préfère quand l'alien est conservé mystérieux et étrange.
In Star Trek, for instance, the Vulcans, you know, they have sort of pointy ears and green blood. And they're there for a narrative purpose.
Par exemple, dans Star Trek, les Vulcains, ils ont des oreilles pointues et du sang vert. Ils sont là pour une raison narrative, en fait, pour l'histoire.
And in fact, many of the aliens that would come into Star Trek would be essentially all but humanoid, except they might just be a little bit different in one detail.
La plupart des aliens dans Star Trek sont humanoïdes. Ressemble à des humains, excepté pour à un détail près.
And that's a perfectly good approach for telling a certain type of story.
Et ça, c'est une très bonne approche pour raconter un certain type d'histoire.
But I've always been attracted to the alien that is completely unknowable, unfathomable, where you don't know anything about them really.
Mais j'ai surtout moi été attiré par les aliens dont vous ne connaissez rien, vous ne comprenez rien, vous n'avez aucune idée de la profondeur.
And my approach really is really to just explain as little as I can get away with. I very rarely tell you anything about the evolution or the history of the aliens.
Mon approche, c'est je vous dis pratiquement rien de l'évolution et de la création de ces aliens ou de leur histoire.
And I just try and resist the temptation to over-explain.
J'essaye de résister à la tentation de trop expliquer, justement.
But hopefully that I can keep the alienness of the aliens quite intact.
Je vais essayer de garder l'étrangeté de ces étrangers aussi intacte que possible.
But it's just a choice, really.
Mais c'est un choix personnel.
And it suits the type of science fiction I want to write, but if I wanted to write a different type, then I suppose I would have a different approach.
Et ça correspond au type d'histoire que j'écris, et je suppose que si je voulais écrire différents types d'histoires, eh bien j'adapterais ma façon d'écrire les extraterrestres.
Et si vous utilisiez autre chose que l'espace et la galaxie, qu'est-ce qui pourrait marcher? Est-ce que les univers parallèles, les avenirs lointains, les fonds sous-marins, est-ce que rien ne peut remplacer le space opera dans ce qu'il offre comme perspective? Qui a envie de répondre là?
C'est la solution alternative, c'est l'Uchronie. C'est-à-dire des mondes parallèles sur notre Terre. Et là, c'est un champ fabuleux pour écrire quelque chose. J'ai écrit une Uchronie il y a 3 ans, 4 ans, et je me suis amusé vraiment, parce que j'aime pas de Gaulle. Je suis comme ça. J'en ai fait un petit général. Il est resté général. Il a eu la guerre, mais il est resté général. Et puis, j'aime pas non plus Staline. Staline, ben, il a cassé sa pipe. Il a fait des choses très vilaines, il a cassé sa pipe. J'aime pas non plus Hitler. Ben, j'ai fait un vilain Hitler, mais j'aimais bien d'autres personnages qui n'ont jamais existé, sauf dans ma tête. Et j'en ai fait des grands cracks européens, d'Amérique du Sud, plusieurs d'Amérique du Sud, parce que je trouve qu'il y a des gens très intelligents d'Amérique du Sud, et des gens plus fabuleux, donc politiques d'ailleurs. Et ça m'a permis un champ d'écriture beaucoup plus simple, parce que j'avais pas de... Je réglais des comptes, je l'ai dit hier soir, j'ai réglé les comptes avec les Anglais. Non, mais je me dis que je l'avais eu hier après.
Les Gallois
en plus. J'ai réglé mes comptes avec les Américains, j'ai pas les Américains. Ça c'était parfait. Hein. Puis j'ai pas aussi, ça permet beaucoup de choses. J'ai utilisé des armes. Les armements, parce que je refais la Seconde Guerre mondiale, les armements aussi bien américains que allemands. Je l'ai tout gardé de mon côté, parce que c'est plus simple de regarder des petites armes pour le temps qu'on est en train de pécher et qu'il y a une cavalerie. Enfin, bref, les mondes parallèles, c'est un truc fabuleux. Vous imaginez, même pour cela d'ailleurs, vous imaginez que vous recevez un avion sur la tête, vous explosez en énergie, et hop, un mec se dresse à côté, c'est vous, un autre monde parallèle. Et si au moment du franchissement de la frontière, vous avez pensé à une autre destinée que la vôtre, vous quittez un monde où vous êtes appelé journaliste comme un autre, et vous retrouvez la fleur en chef du pouvoir quotidien de Paris. Merde, c'est sympa, ça permet de faire des trucs, quoi. On peut s'imaginer pour le ministre des Finances, par exemple. J'ai aussi un beau mec. C'est vraiment chouette. Donc les mondes parallèles, ça je trouve que c'est un choc de l'écriture.
C'est une alternative qui vous séduirait ou vous en avez d'autres?
L'Uchronie, j'ai essayé aussi. Donc c'est un. Un jeu sur l'histoire qui est assez formidable, effectivement. Donc, c'est aussi un domaine d'exploration qui est très intéressant. Le monde parallèle, je n'ai jamais fait encore. J'ai l'impression que aussi dans le space opéra, on retrouve beaucoup de choses. Tu disais tout à l'heure, je te dis que dans le space opéra, tu peux faire un peu ce que tu veux, roman sentimental, roman social, roman social. Mais tu peux faire du fantastique aussi, tu peux faire de la fantasy. Il y a beaucoup d'archétypes de fantasy dans le space opéra. La description que fait Alistair des extraterrestres se rapproche énormément du fantastique. Je trouve qu'Alien, par exemple, est un film fantastique plus qu'un film de science-fiction. Parce que ce sont des archétypes inexplicables qui font peur, donc on est bien dans un registre du fantastique. Donc le space opéra permet énormément de choses, mais de toute façon j'ai l'impression que c'est juste une métaphore de l'âme humaine qui est aussi infinie avec tous ces trucs à l'intérieur et tous ces complexités. Et j'ai l'impression que le space opéra aussi ça permet justement à l'âme humaine de se quelque part de chercher une réunification en elle-même. Quoi. C'est un petit peu comme dans tous les romans, et dans les romans mythologiques particulièrement, où on va toujours vers la recherche d'une moitié de quelque chose ou d'un élément qui nous manque. Et le space opéra est formidable pour ça. Donc, pour l'instant, même chose d'ailleurs pour l'Uchronie, parce que l'Uchronie agit en miroir inversé, et c'est aussi une façon de compléter les bouts de l'histoire humaine. Donc tout est possible dans l'imaginaire, c'est ça qui est extra, mais dans le space opéra a vraiment un charme très particulier que à chaque fois que je fais un space opéra, je me dis putain, j'en ai ras-le-bol, la prochaine histoire je le fais sur Terre, c'est vachement plus calme, je suis pas obligé d'expliquer ce que c'est qu'un russe, même si c'est un alien quelque part, je suis pas obligé d'expliquer ce que c'est que la Chine, ou la gravité, parce que je suis pas obligé non plus d'expliquer ce que c'est qu'une voiture, parce que voilà, tout le monde sait ce que c'est, et je me dis, bah, j'en ai marre d'être dans cette... obligation d'à peu près expliciter tout. Donc je reste sur la Terre. Quand je suis sur la Terre, je fais une aventure sur la Terre, une anticipation, un thriller avec une inspiration un peu fantastique. Je n'ai qu'une envie, c'est de retourner dans l'espace, parce que je me dis, oh là là, on va pouvoir respirer enfin dans l'espace, parce que la Terre, c'est vraiment un petit peu pénible, la gravité, tout ça. On a envie de s'en sortir. Donc il y a une sorte de dualité en moi, ou de schizophrénie qui fait qu'à chaque fois que je suis sur Terre, je vais dans l'espace, et à chaque fois que je vais dans l'espace, je vais sur Terre. Et c'est cette alternance-là qui m'intéresse finalement.
À la Terre, les univers virtuels rencontraient des intelligences artificielles, ce serait intéressant aussi, ou est-ce que ce serait moins stimulant?
Ah, I see, yes. I don't think so, because...
Je pense pas. Je pense que ce serait moins excitant.
If we create a computer tomorrow and it has an artificial intelligence in it...
Si on crée un ordinateur qui a une intelligence artificielle dedans...
It's still something that has an origin in something that we've made.
C'est toujours quelque chose qui a une origine dans quelque chose qu'on a fabriqué.
So I don't think it will ever... It will never be as... unknowable as the alien.
Yeah. Je ne pense pas que ce soit aussi inconnaissable que les aliens.
You ask philosophical questions, you get philosophical answers.
Ouais. Si vous posez des questions philosophiques, vous avez des réponses philosophiques. Et moi, je suis dans la merde.
I mean, I'm very interested in artificial intelligence.
Je suis très intéressé dans l'intelligence artificielle. Je suis très intéressé par l'intelligence artificielle.
And it plays a huge part in particularly the book the sequence of books I'm working on at the moment.
Et ça joue un grand rôle dans la série de livres que je suis sur lesquels je travaille en ce moment.
But the artificial intelligence, there's several artificial intelligences in the story, but they are sort of modeled on human personalities.
Il y a plusieurs intelligences artificielles dans les livres qui sont modelées sur des intelligences humaines.
So they don't ever feel really alien.
Alors elles ne donnent jamais l'impression d'être alien.
So yeah, it's a different way of thinking about it, I suppose. Yeah.
C'est une façon différente d'y penser.
I think the alien will always be more fascinating to me as a writer.
Le vrai alien sera toujours plus fascinant pour moi en tant qu'écrivain.
You know, we probably will create an artificial intelligence.
Probablement on créera une intelligence artificielle à un moment donné.
But the alien intelligence, we still have no idea whether there are alien beings out there or not.
Mais l'intelligence artificielle, l'intelligence alien, déjà, on a absolument aucune idée du fait y a-t-il ou non une intelligence alien quelque part.
And in a thousand years, we may still have no answer to that question.
Et dans 1000 ans, il est très probable qu'on ait toujours pas la réponse à cette question.
So for me, it's quite a deep and mysterious topic.
Pour moi, c'est un sujet profond et mystérieux.
Nous arrivons déjà au bout de cette heure qui a passé très très vite. Je crois qu'ils nous ont tous convaincus que le space opéra était un genre extrêmement riche, toujours jeune, et peut-être un des plus féconds de la science-fiction. Donc on va tous continuer à en lire. De toute façon, on avait prévu de le faire. Et merci à tous pour ce stimulant débat. Et merci à vous aussi.